Chapitre 116. L'inquiétude du roi. Laissons là la pauvre Lavallière à moitié évanouie entre ses deux compagnes et revenons aux environs du chêne royal. Les trois jeunes filles n'avaient pas fait 20 pas en fuyant que le bruit qui les avait si fort épouvantées redoubla dans le feuillage. La forme se dessinant plus distincte en écartant les branches du massif, apparut sur la lisière du bois et, voyant la place vide, partit d'un éclat de rire. Il est inutile de dire que cette forme était celle d'un jeune et beau gentilhomme, lequel incontinent fit signe à un autre qui parut à son tour. « Eh bien, sire, dit la seconde forme en s'avançant avec timidité, « est-ce que votre majesté aurait fait fuir nos jeunes amoureuses ?»« Eh, mon Dieu, oui, dit le roi, tu peux te montrer en toute liberté, Saint-Aignan. »« Mais, sire, prenez garde, vous serez reconnu. »« Puisque je te dis qu'elles ont fui. »« Voilà une rencontre heureuse, sire, et si j'osais donner un conseil à votre majesté, nous devrions les poursuivre. »« Elles sont loin. »« Bah ! Elles se laisseraient facilement rejoindre, surtout si elles savent quels sont ceux qui les poursuivent. Comment cela, monsieur le fat? Dame, il y en a une qui me trouve à son goût et l'autre qui vous a comparé au soleil. Raison de plus pour que nous demeurions cachés, Saint-Aignan. Le soleil ne se montre pas la nuit. Par ma foi, sire, votre majesté n'est pas curieuse. À sa place, moi, je voudrais connaître quelles sont les deux nymphes, les deux dryades, les deux amadryades qui ont si bonne opinion de nous. Oh, je les reconnaîtrai bien sans courir après elles, je t'en réponds. Et comment cela? Parbleu, à la voix! Elles sont de la cour, et celle qui parlait de moi avait une voix charmante. Ah, voilà votre majesté qui se laisse influencer par la flatterie. On ne dira pas que c'est le moyen que tu emploies, toi. Oh, pardon, sire, je suis un niais. Voyons, viens et cherchons où je t'ai dit. Et cette passion dont vous m'aviez fait confidence, sire, est-elle donc déjà oubliée? Oh, par exemple, non. Comment veux-tu qu'on oublie des yeux comme ceux de Mademoiselle de Lavallière? Oh, l'autre a une si charmante voix. Laquelle? Celle qui aime le soleil? Monsieur de Saint-Aignan! Pardon, sire. D'ailleurs, je ne suis pas fâché que tu croies que j'aime autant les douces voix que les beaux yeux. Je te connais, tu es un affreux bavard, et demain je paierai la confiance que j'ai eue en toi. Comment cela? Je dis que demain tout le monde saura que j'ai des idées sur cette petite Lavallière. Mais prends garde, Saint-Aignan! Je n'ai confié mon secret qu'à toi, et si une seule personne m'en parle, je saurai qui a trahi mon secret. Oh, quelle chaleur, sire! Non, mais tu comprends, je ne veux pas compromettre cette pauvre fille. Sire, ne craignez rien. Tu promets? Sire, je vous engage ma parole. Bon, pensa le roi, riant en lui-même. Tout le monde saura demain que j'ai couru cette nuit après Lavallière. Puis, essayant de s'orienter. Ah, ça, mais nous sommes perdus, dit-il. Oh, pas bien dangereusement. Où va-t-on par cette pente? Au rond-point, sire. Où nous nous rendions quand nous avons entendu des voix de femmes? Oui, sire, et cette fin de conversation où j'ai eu l'honneur d'entendre prononcer mon nom à côté du nom de votre majesté. Tu reviens bien souvent là-dessus, Saint-Aignan. Que votre majesté me pardonne, mais je suis enchanté de savoir qu'il y a une femme occupée de moi, sans que je le sache et sans que j'aie rien fait pour cela. Votre majesté ne comprend pas cette satisfaction, elle dont le rang et le mérite attirent l'attention et forcent l'amour. « Eh bien non, Saint-Aignan, tu me croiras si tu veux, » dit le roi, en s'appuyant familièrement sur le bras de Saint-Aignan et prenant le chemin qu'il croyait devoir le conduire du côté du château. Mais cette naïve confidence, cette préférence toute désintéressée d'une femme qui peut-être n'attirera jamais mes yeux. En un mot, le mystère de cette aventure me pique, et en vérité, si je n'étais pas si occupé de la Vallière...
Oh, que cela n'arrête point votre majesté, elle a du temps devant elle.
Comment cela?
On dit la Vallière fort rigoureuse.
Tu me piques, Saint-Aignan, il me tarde de la retrouver.
Allons, allons.
Le roi mentait, rien au contraire ne lui tardait moins. Mais il avait un rôle à jouer, et il se mit à marcher vivement. Saint-Aignan le suivit en conservant une légère distance. Tout à coup, le roi s'arrêtant, le courtisan imita son exemple.
« Saint-Aignan, dit-il, n'entends-tu pas des soupirs ?»«
Moi ?»«
Oui, écoute. »
« En effet, et même des cris, ce me semble. »«
C'est de ce côté, » dit le roi en indiquant une direction.
« On dirait des larmes et des sanglots de femmes, » fit M. de Saint-Aignan.
« Courons !»
Et le roi et le favori, prenant un petit chemin de traverse, coururent dans l'herbe. À mesure qu'ils avançaient, les cris devenaient plus distincts.
« Au secours ! Au secours !» disaient deux voix.
Les deux jeunes gens redoublèrent de vitesse. Au fur et à mesure qu'ils approchaient, les soupirs devenaient des cris.
« Au secours ! Au secours » répétait-on.
Et ces cris doublaient la rapidité de la course du roi et de son compagnon. Tout à coup, au revers d'un fossé, sous des saules aux branches échevelées, ils aperçurent une femme à genoux, tenant une autre femme évanouie. À quelques pas de là, une troisième appelait au secours au milieu du chemin. En apercevant les deux gentilshommes dont elle ignorait la qualité, les cris de la femme qui appelait au secours redoublèrent. Le roi devança son compagnon, franchit le fossé, et se trouva auprès du groupe au moment où, par l'extrémité de l'allée qui donnait du côté du château, s'avançait une douzaine de personnes attirées par les mêmes cris qui avaient attiré le roi et M. de Saint-Aignan.
« Qu'y a-t-il donc, mesdemoiselles ? » demanda Louis.
« Le roi ! »
s'écria Mademoiselle de Montalais en abandonnant dans son étonnement la tête de la Vallière qui tomba entièrement couchée sur le gazon.
« Oui, dit le roi, mais ce n'est pas une raison pour abandonner votre compagne. Qui est-elle ? »
« C'est Mademoiselle de la Vallière, sire. »«
Mademoiselle de la Vallière ? » ?»«
Qui vient de s'évanouir. »
« Ah, mon Dieu, dit le roi, pauvre enfant ! Et vite, vite un chirurgien !»
Mais, avec quelque empressement que le roi eût prononcé ces paroles, il n'avait pas si bien veillé sur lui-même qu'elle ne dût se paraître, ainsi que le geste qui les accompagnait, un peu froide, à M. de Saint-Aignan, qui avait reçu la confidence de ce grand amour dont le roi était atteint.
« Saint-Aignan, continua le roi, veillez sur Mademoiselle de la Vallière, je vous prie. Appelez un chirurgien. Moi, je cours prévenir Madame de l'accident qui vient d'arriver à sa demoiselle d'honneur. »
En effet, tandis que M. de Saint-Aignan s'occupait de faire transporter Mademoiselle de la Vallière au château, le roi s'élançait en avant, heureux de trouver cette occasion de se rapprocher de Madame et d'avoir à lui parler sous un prétexte spécieux. Heureusement, un carrosse passait. On fit arrêter le cocher, et les personnes qui le montaient, ayant appris l'accident, s'empressèrent de céder la place à Mademoiselle de la Vallière. Le courant d'air provoqué par la rapidité de la course rappela promptement la malade à l'existence. Arrivée au château, elle put, quoique très faible, descendre du carrosse et gagner, avec l'aide d'Athénaïse et de Montalais, l'intérieur des appartements. On la fit asseoir dans une chambre attenante au salon du rez-de-chaussée. Ensuite, comme cet accident n'avait pas produit beaucoup d'effet sur les promeneurs, la promenade fut reprise. Pendant ce temps, le roi avait retrouvé Madame sous un quinconce. Il s'était assis près d'elle et son pied cherchait doucement celui de la princesse sous la chaise de celle-ci.
« Prenez garde, sire, lui dit Henriette tout bas, vous ne paraissez pas un homme indifférent. » Hélas, répondit Louis XIV sur le même diapason, j'ai bien peur que nous n'ayons fait une convention au-dessus de nos forces. Puis, tout haut, savez-vous l'accident? Dit-il. Quel accident? Oh mon Dieu, en vous voyant, j'oubliais que j'étais venu tout exprès pour vous le raconter. J'en suis pourtant affecté douloureusement. Une de vos demoiselles d'honneur, la pauvre Lavallière, vient de perdre connaissance. Ah, pauvre enfant, dit tranquillement la princesse, et à quel propos? Puis, tout bas, mais vous n'y pensez pas, sire, vous prétendez faire croire à une passion pour cette fille, et vous demeurez ici quand elle se meurt là-bas? Ah, madame, madame, dit en soupirant le roi, que vous êtes bien mieux que moi dans votre rôle, et comme vous pensez à tout. Il se leva. Madame, dit-il assez haut pour que tout le monde l'entendît, permettez que je vous quitte. Mon inquiétude est grande, et je veux m'assurer par moi-même si les soins ont été donnés convenablement. Et le roi partit pour se rendre de nouveau près de Lavallière, tandis que tous les assistants commentaient ce mot du roi. Mon inquiétude est grande.